Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Hugues Daillé, c'est lui.
Et Rudy Léonet n'est pas bien loin. Bonsoir, mon cher Rudy.
Mais bonsoir à mon cher Hugues. Et à l'unisson, telle une chorale de jeunes...
choristes.
Choristes.
Bonsoir, Laurent Nélissen. C'est bien.
Quel preacher. Il lève les bras et il...
Oui, mais il est toujours en forme.
Il invoque le ciel.
Je suis très... très jaloux de sa forme physique.
Dingue. Est-ce que les dieux seront avec nous aujourd'hui ?
Bah oui, 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 oui,
oui. En tout cas...
C'est aujourd'hui l'ouverture de la boîte à chatons ?
Demain.
C'est demain.
Demain, on déstocke.
D'accord.
On déstocke le chaton demain.
D'accord, ok,
tout doit
bien.
Partir.
Ok, très bien. Non, mais très bien.
Non, aujourd'hui, on va plutôt restocker avec du dinosaure et je parlais d'invoquer les dieux. On va ouvrir avec une divinité.
Ah.
Alors, je me suis dit, c'est quand même curieux ce qui est en train de se passer, mais pas tant que ça. Qu'est-ce qui, pour l'instant, est un peu fort couru comme style de musique ?
La country.
Oui, et par extension, le folk. La musique, disons, qui retrouve ses racines américaines comme jamais. C'est plus du tout has-been, c'est complètement dans l'air du temps. Alors, tout le monde en profite. On a entendu... Dolly Parton,
Beyoncé,
oui. Évidemment, mais je parle plutôt des anciens,
des authentiques,
des pionniers.
Willie Nelson. 92e oui. Album, oui, oui, oui.
Ça, c'est pour les vivants.
Oui.
Et du coup, les chers disparus, eux aussi veulent leur part de cet engouement.
En tout cas, les héritiers des chers disparus.
En tout cas, les héritiers. Oui. Et donc, on attend... pour le 28 juin prochain, un nouvel album de Johnny Cash.
Ah oui !
Ah oui ! Alors, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Et comme par hasard, on a retrouvé, comme par hasard, des enregistrements inédits ces jours-ci, comme par hasard.
Ah oui.
Alors, on est en 1993.
Oui.
Johnny Cash est assez diminué déjà. Il va disparaître en 10 ans plus tard, en 2003. Et donc, il est entre deux contrats avec deux sociétés d'enregistrement, deux maisons de disques, deux labels. Et entre deux contrats, il se dit « bah, je vais donner un petit coup de pouce à la famille ». Et donc, il va s'installer pour une résidence dans le studio LSI de Nashville. Mm-hmm. Ce studio appartient à sa fille et à son beau-fils. Et il se dit « bah, comme je ne suis pas lié par contrat, autant aller bosser chez eux, ça fera tourner le studio et voilà, on reste en famille, c'est une manière de leur donner un coup de pouce dans leur entreprise.
Un peu comme quand il y a des enfants qui ont un restaurant, on va bouffer chez eux toute la semaine. Oui.
Voilà. Et on tient à payer.
Oui, évidemment.
Et donc, il s'installe dans le studio et comme il est quand même extrêmement productif, il finit par mettre en boîte... de quoi constituer un album, mais on est au stade de l'écriture, donc on est plutôt guitare-voix. Mais entre-temps, il est contacté par le producteur Rick Rubin, immense, un producteur qui a
yes,
tenté...
Non.
Ah non, il n'a pas fait Yes, il s'est allé des Beastie Boys aux Rolling Stones, en passant par Metallica, enfin il a absolument... Là, il vient de produire le dernier album... Slayer, il a fait de Gossip. Enfin, c'est un producteur, vous savez, avec une très très longue barbe. Voilà, il est un peu en dehors des clous, mais toujours très très créatif. Il a beaucoup beaucoup d'idées dans tous les styles musicaux. Et il contacte Johnny Cash et lui propose pour Def Jam Recordings d'enregistrer un album, donc de retomber sous contrat, chose qu'il ne peut pas vraiment refuser. Et ensemble, ils vont faire cet album qui va quelque part marquer le retour dans une certaine modernité de Johnny Cash. Il va un peu sortir de son côté temple et divinité poussiéreuse. Là, il revient dans l'actualité, il redevient moderne quelque part.
Il n'y a pas un frouchelage avec U2, non ? Non, je me trompe. Bon.
Et donc, il enregistre American Recordings, qui est un premier album qui va donner lieu à toute une série d'albums, American Recordings, sur lesquels il y a des chansons originales, mais aussi des tas de reprises.
D'accord.
Et c'est pour un de ces albums qu'il va notamment reprendre Personal Jesus de Depeche Mode.
Voilà,
Depeche Mode, oui.
C'est Depeche Mode, oui. C'est pas YouTube.
Qui est beaucoup passé sur les radios. Donc, U2 aussi, il avait repris quoi? One de U2. Vous aviez raison.
Ben voilà. Voilà. Donc, Laurent Nélissen fait du fact-checking
à la vitesse de l'éclair. Il est très Johnny Cash. D'ailleurs, il est déjà suspendu aux précommandes de l'album des Inédits.
Oui.
Voilà, donc Johnny Cash qui, du coup, oublie cet album enregistré
à la maison,
chez la fille et chez le beau-fils, classement vertical dans une armoire qu'on vient d'ouvrir.
Mais enfin, on avait perdu la clé.
Mais il n'y avait que la guitare et la voix.
Oui. Qu'on fait dans ces cas-là? On appelle Ivan Kassar?
Une sorte d'Ivan Kassar américain, exactement. On rappelle le groupe, enfin les survivants du groupe qui avaient l'habitude d'accompagner Johnny Cash, et on leur demande de faire par-dessous.
C'est ça.
Voilà. Et on dépoussière ainsi des chansons qui étaient à l'état un peu squelettique, à l'état de brouillon, pour en faire des chansons plus abouties. L'album donc sortira fin juin, à partir d'enregistrements de 1993. Cet album a pour nom The Songwriter. Songwriter, voilà, donc ça résume à peu près la situation. Et on a déjà un extrait de cet album. Donc Johnny Cash, en tout cas les héritiers, qu'ils, eux aussi, veulent profiter un petit peu de la situation et du climat favorable autour de la country et du folk pour l'instant, avec un retour de Johnny Cash à travers des inédits, dont celui-ci, Well Alright. Well Alright. Alors, plus authentique que ça, ça va être difficile.
Oui,
bonne chance à tous les autres.
Et terriblement inédit.
Incroyable.
Vraiment. Inédit. Oui, c'est terriblement neuf. Ça ajoute beaucoup à son œuvre.
Comme on dit dans ces cas-là, c'est pour les fans.
Voilà.
C'est pour les fans. Johnny Cash.
Alors, la semaine prochaine.
On peut faire du poney dessus. Hein.
Oui. Absolument. C'est le plus pratique. Alors, je vous avais un petit peu donné la physionomie éditoriale de cette semaine. Comme la semaine prochaine, nous seront en train de recharger nos batteries pendant les vacances de printemps, eh bien, il y a naturellement des sorties prévues le mercredi 1er mai. Eh bien, je vais justement faire des avant-premières de ces sorties de la semaine prochaine. Et on commence avec un film qui s'intitule Challengers, du cinéaste italien très chéri de la Mostra de Venise. Je veux parler de Luca Guadagnino.
Formidable. On le regarde et ensuite on en parle. vous dites, je vais vous organiser des avant-premières. Moi, je m'attends à ce qu'on voit le film.
Des avant-premières critiques. Oh. Oui, vous savez bien qu'après ça, on peut regarder chez soi calmement la bande-annonce. C'est-à-dire, tiens, est-ce que les acteurs ressemblent bien à la manière dont il les a décrits, par exemple, hein, c'est ça la magie de la radio. C'est amusant, cette histoire de Challengers, parce que donc, c'est réalisé par Luca Guadagnino, qui est un cinéaste
qu'on a évoqué hier, puisque Tom York avait composé la musique de son film précédent, le remake de Suspiria.
Voilà, un de ses films précédents.
Le
film précédent, c'était Of Bones and All, l'histoire d'amour cannibale
avec
Timothée Chalamet. Luca Guadagnino, il a son rond de serviette à la Mostra de Venise. Hein. Il y en a qui ont leur rond de serviette à Cannes. Lui, d'office, c'était Venise. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce film Challengers devait ouvrir la Mostra de 2023. Et puis, patatras de soin, grève des acteurs. Et la production a décidé de retirer le film, et donc la Mostra a dû trouver un autre film en catastrophe, un autre film d'ouverture. Pourquoi ? Mais parce que il est évident que le gros argument de vente de Challengers, d'ailleurs elle est sur l'affiche du film, ce n'est pas Luca Guadagnino, c'est Zendaya, qui est en tête d'affiche avec Josh O'Connor et Mike Faist. Alors évidemment, le fait de sortir Challengers maintenant, après le triomphe mondial de Dune, deuxième partie, ça ne peut évidemment qu'aider le film qui ont, pour les fans de Zendaya, qui est en train de monter en puissance dans la, dans la liste des acteurs bankable. Hein. Et donc, elle est en la photo est fameusement photoshopée, mais toujours est-il qu'elle est retraitée, mais elle est la tête d'affiche de Challengers. Alors, je disais, une fille, deux garçons, un triangle amoureux. En fait, on découvre deux jeunes amis, l'un joué par Josh O'Connor, pour mémoire, a percé, et le rôle lui colle un peu à la peau tellement il était formidable, il jouait le jeune prince Philippe d'Angleterre dans la série The Crown, avec Emma Corrin qui jouait la jeune Diana, et il ressemblait pas à 100%, mais il avait les attitudes un peu gauches et timides. Enfin, ça a vraiment servi pour lui de carte de visite internationale. Et on l'a vu récemment dans un film, La Chimère, un film italien dont je vous ai parlé, où il jouait un... Vous l'avez déjà oublié. C'est un film qui est encore à l'affiche, d'ailleurs.
Je n'étais peut-être pas là. De temps en temps, j'envoie mon avatar.
Si, je vous ai dit Alice Rohrwacher, qui fait des avec sa sœur Alba Rohrwacher.
Ah oui, vous vous voilà. Je me souviens.
Voilà, et donc il est également à l'affiche de ce film-là, mais donc il joue ici avec un autre acteur moins connu qui s'appelle Mike Feist. Il joue deux amis d'enfance, enfin de jeunesse en tout cas, et qui sont tous les deux, qui font des études, mais qui ont une passion pour le tennis. Et ils découvrent sur le court une jeune championne en devenir, très très courtisée, qui se prénomme Tashi dans le film. Et tous les deux en tombent amoureux. Et la jeune fille est très très fière, très heureuse d'être courtisée par de charmants garçons. Enfin, toujours est-il qu'ils deviennent une sorte de trio d'amis. Et on les découvre. Le film fait en permanence des allers-retours entre le passé et le présent. Le passé, c'est justement leur jeunesse et leur coup de foudre pour cette jeune Tashi. Et puis, on les découvre adultes, une quinzaine d'années plus tard. L'un est devenu un champion de tennis, Mike Feist, donc incarné par Mike Feist, il est devenu un champion de tennis, et Tashi est devenue son entraîneuse. Alors pourquoi est-ce qu'elle est devenue sa coach? Parce qu'elle a subi une blessure très importante et qui a condamné sa carrière de championne de tennis, mais ayant toujours évolué dans le monde du tennis, elle est devenue la coach de ce jeune garçon, Art, joué par Mike Feist. Et l'autre copain, le rival en quelque sorte, lui, joué par Josh O'Connor, il n'a pas percé. Il n'a pas percé, non pas parce qu'il n'était pas bon, mais c'est une sorte de ludion, de fêtard perpétuel. Enfin, il manque terriblement de maturité. Donc, il a des fulgurances, mais il n'a pas assez d'assiduité pour mener une véritable carrière. Le problème, c'est qu'il a infiniment plus de charisme que l'autre. Donc, il y en a un qui est quelque part un bon élève, qui est un champion, mais qui est totalement dénué de charisme. Et quelque part, celle qui est devenue son coach et sa compagne, elle le sait très bien secrètement, mais elle a choisi la sécurité, le confort matériel. Et quand évidemment le jeune chien fou Patrick revient dans la course, elle se rend bien compte. Elle lutte contre ses sentiments parce qu'elle est infiniment plus attirée par ce chien fou, par ce maverick. Simplement, elle est tiraillée et elle va être d'autant plus tiraillée que le Patrick en question revient dans un tournoi de tennis et qu'il entend bien, quitte à ce que ce soit son dernier coup d'éclat, prendre sa revanche et arriver à monter en puissance dans le tournoi pour enfin de nouveau jouer face à son ancien copain. Donc c'est à la fois triangle amoureux et rivalité sportive. On voit, et donc avec tout le temps des allers-retours assez bien monté, assez bien décrit entre le passé et le présent. Il y a tout le temps des flashbacks pour ce qu'on se rend compte en fait de qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse, qu'est-ce que j'ai fait de mes ambitions de jeunesse, quelles compromissions ai-je accepté. Ça, c'est assez bien.
Et puis, c'était plus facile de choisir comme terrain le tennis pour mettre en scène cette rivalité que fléchette ou javelot.
Oui, ou billard.
Oui, enfin, ou saut en longueur. Oui, vous imaginez une compétition amoureuse sur fond de saut en longueur.
Cela étant, j'ai quand même le sentiment que Luca Guadagnino, qui aime bien faire son intéressant, c'est quand même un cinéaste qui a été très très vite monté en épingle comme auteur. Il avait, pour moi, sa belle réussite, c'était Call Me By Your Name, mais il faut bien se dire que Call Me By Your Name était basé sur un scénario du vétéran James Ivory, à qui on ne rend pas toujours justice. Alors, il est toujours un peu tributaire des scénarios. Luca Guadagnino, il a fait donc des remakes. Il a fait un remake de La Piscine de Jacques Deray, un remake épouvantable avec Mathias Kounartz qui s'appelait Bigger Splash. Il a fait ce remake de Suspiria de Dario Argento. Donc, en fait, on a l'impression qu'il s'empare un peu de tous les matériels, mais qu'après, il veut mettre sa patte, son style de réalisateur. Et ici, on a l'impression qu'il est en train de dire « Hey, je ne vais quand même pas filmer un match de tennis comme tout le monde. Hein. » Donc, on a l'impression qu'en fait, qu'ils s'en foutent du
tennis. Ils ont mis une caméra dans la balle ?
Non, mais il y a une espèce de montage un peu heurté. On voit les visages des joueurs en sueur. Il y a une tension dramatique. Mais pour suivre vraiment l'évolution du match, heureusement qu'on a de temps en temps le tableau marquoir. Quoi, parce que sinon, c'est filmé, je ne dis pas de façon abstraite, mais de façon déstructuré. Vous savez, un peu comme certains desserts dans des restaurants branchés. Le tiramisu, déstructuré. Donc ici, c'est la partie de tennis déstructurée.
C'est réinventé.
En plus, il ajoute
le tiramisu déconstruit.
En plus, il ajoute la musique de Trent Reznor et Atticus Ross.
Ah oui.
Et qui mettent des pulsations à certains moments qui viennent de nulle part. La musique est très très bien, mais parfois on a l'impression que c'est la musique d'un autre film. Vous voyez ce que je veux dire ? On est vraiment dans une
des
sorte
choses
de...
qui arrivent, oui.
On est vraiment dans un truc. Donc, une fois encore, Guadagnino, il fait son intéressant. Il dit, regardez comme je déstructure, comme je réinvente. Et parfois, c'est assez agaçant. Vous avez un peu plus de simplicité. Tu as à la limite un scénario avec de l'amour, de la rivalité, de la frustration avec des bons acteurs. On sent aussi que, je ne sais pas si c'est le producteur, mais essaye de bien filmer Zendaya quand même, hein, parce que les mecs, d'accord, mais...
C'est quand même un argument, Zendaya.
En plus, évidemment, qu'il y a des petites jupettes de tennis pour montrer sa silhouette absolument parfaite. Donc, on sent que Zendaya est un bon argument de vente. Alors, est-ce que c'est une grande actrice ? C'est beaucoup trop tôt pour dire, mais en attendant, ici, elle
trop
fait le
tôt,
boulot.
Il serait quand même temps de se faire un avis. Hein. Elle a quand même une filmo.
Oui, mais c'est des rôles... c'est pas des rôles très, très... très, très compliqués, très, très complexes, le rôle qu'elle joue dans Dune.
Oui, mais enfin, elle est dans Euphoria, c'est quand même pas facile.
Oui, c'est vrai. Ah oui, mais je connais mal Euphoria.
Ah, ben voilà. Donc, voilà. Tout de suite, sentencieux, Zendaya, les gambettes, et encore tout à prouver, mais en même temps, j'ai pas
elle
vu.
Elle est bien dans Euphoria.
Oui, elle est super elle dans est Euphoria.
Eh bien, voilà, elle est formidable dans Euphoria. Heureusement que vous êtes là pour... Mais en tout cas, au cinéma, je trouve que ça reste... Elle n'a pas encore trouvé... le rôle porteur, parce qu'ici, elle est quelque part l'objet de rivalité des deux sportifs. Mais voilà, elle est essentiellement cantonnée à ça. Alors, il y a un scénario assez intéressant. Et une fois encore, le travail de montage est bien. Je regrette vraiment le fait que, enfin, les coquetteries de style de Luca Guadagnino qui de temps en temps bousillent les scènes. Et on ne va pas du tout la révéler, mais
la fin,
ils ne savent pas comment terminer.
À la fin, il paraît qu'ils ont perdu la balle. Ils cherchent la balle.
Babal. Ils ne savent pas comment terminer. Et ça, ce genre de film qui est basé sur à la fois un suspense amoureux et sportif qui dit, et maintenant, chers spectateurs, démerdez-vous. Ça, je trouve ça horripilant. Le fait que...
Il est comme ça, Luca.
Oui, souvent.
On l'a toujours connu comme ça.
Souvent. Toujours est-il que voilà, ça sort mercredi prochain. Impossible d'ignorer que Zendaya est la tête d'affiche. Je vous dis, voilà.
Non, mais.
L'affiche, c'est ça.
Oui, mais elle est partout sur les carpettes rouges, hein, en Italie.
Les red carpets.
Oui, habillé en Gucci.
Voilà. Donc, ça s'appelle Challengers. C'est un scénario d'un certain Justin Kuritskus. J'ai un peu regardé. Pas très très connu, pas une filmographie d'enfer, donc voilà, peut-être que ça va, parce qu'une fois encore, le scénario, eh bien, il y a juste un peu vous l'aurez compris, des coquetteries qui déstructurent.
Ça déstructure.
Qu'est-ce qu'on donne ? Mais on peut donner des balles de match. On va donner des balles de match. On donne quand même 2 balles de match.
Ah oui, c'est bien servi quand même. Enfin, c'est le cas de le dire. C'est vachement bien servi. Voilà. Dites à propos de Trent Reznor.
Oui.
Punaise, il est colère. Hein. Je me tourne vers Laurent Nielsen, qui est quand même amateur de l'homme et de l'artiste. Il est super colère parce que Spotify a annoncé à ses actionnaires les résultats de ses chiffres pour l'année 2023. Et donc, pour la première fois, le chiffre d'affaires dépasse le milliard. Ils sont à 1 milliard de dollars, quoi. Un petit peu au-delà. Et Daniel Ek, le patron, s'est quand même goinfré 118 millions de bonus. Trend, il est super colère. Mon bon Trend, il a quand même des bras comme des jambons. Voilà, il est super colère. Sur un chantier, c'est le mec qui porte les blocs. Vous voyez, c'est pas le type qui prend la brouette. Non. Lui, il prend les blocs. C'est un peu une sorte d'obélix. Voilà.
Oui.
Et donc, il est super colère parce que des tas d'artistes n'arrivent pas, avec le modèle économique de Spotify, à gagner leur vie. Oui, alors que ce sont des artistes quand même qui tournent, qui remplissent des salles et qui ont un public, pas juste des artistes maudits qui n'attirent personne. Voilà, il prend l'exemple de Grizzly Bear, qui est un groupe américain qui a vraiment son public, mais qui n'y arrive pas. C'est très, très, très compliqué. Alors que les actionnaires sont en train de se goinfrer et que le patron prend des dividendes colossales. Donc, il était très, très colère.
Oui, et apparemment, il ne faut pas l'énerver, effectivement. Je regarde son look actuel.
Ah, c'est le type qui fend une bûche à main nue.
Oui, hein. Oui, mais en attendant...
Oui, Trent, il est comme ça.
En attendant, il fait de la bonne musique.
Oui,
parce qu'une fois encore, la musique est vraiment, vraiment bien. Elle n'est pas pour ce film-ci, mais, mais elle est bien. Voilà.
Et donc, un erratum rapidement, parce que je vous ai annoncé tout à l'heure que Rick Rubin avait produit les Rolling Stones. Non, il a produit Mick Jagger.
Donc ce n'est pas la même.
Ceci dit, j'avais le choix. Il a produit pratiquement tout le monde, mais il fallait que je cite justement un groupe dont il n'avait pas exactement produit la collectivité, mais un des membres, à savoir...
Et moi, j'ai fait pénitence parce que je n'ai pas vu Euphoria et je ne savais pas que Zendaya était déjà formidable dans cette série. Donc,
c'est par là que tout a commencé.
On est tout le temps en train de faire pénitence, c'est normal. Vivement, une petite pause.
Petite pause musicale.
Cette
émission aussi entre tradition et modernité.
Oui, en permanence.
Donc après Johnny Cash, sa musique de tradition, un groupe qui sera ce dimanche au Botanique dans le cadre des Nuits Botta qui viennent de démarrer cette semaine.
Ouais.
On l'a déjà écouté ici. Ils font vraiment partie du renouveau du rock en Angleterre, mais dans la pure tradition du style et du terme, à savoir, c'est pas du tout un groupe électronique. On est vraiment avec des instruments et ça joue. Et je vais vous expliquer qu'ils vont un peu chercher leur inspiration dans le catalogue de... C'est assez original que pour le signaler, dans le catalogue de Yann Dury.
Ah oui.
Voilà, et le groupe s'appelle Yard Act. Très, très groupe qui monte énormément en Angleterre et qui seront dimanche au Botanique, donc dans une configuration... Pour eux, encore aujourd'hui, à taille humaine.
J'aime bien parce que quand ils chantent, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Et ça, j'aime bien. Vous voyez le côté décontracté.
C'est le côté un peu laid-back.
Oui.
C'est-à-dire, on prend de la distance.
Oui,
mais en même temps,
c'est
festif,
c'est efficace.
C'est joué, c'est Yard Act. Ils sont ce dimanche au Botanique, dans le cadre des Nuits Botta.
Bon, pendant que je fais mes avant-premières sans images...
Écoutez, par curiosité, je me suis laissé tenter et par conviction, je suis resté et par enthousiasme débordant, je vous en parle aujourd'hui. Une série qui est arrivée sur Amazon Prime et qui s'appelle Fallout.
Oui.
Pourquoi par curiosité
arriver,
parce que c'est encore une adaptation d'un jeu vidéo.
Ah.
Mais en même temps, les jeux vidéo, depuis quelque temps, bénéficient de traitements un peu privilégiés. Je vais prendre l'exemple de Super Mario au cinéma, qui est vraiment une réussite, tant critique que publique, réalisée par Illumination.
Oui, absolument, c'est un très très gros succès. Mais de toute façon, rappelons, je n'ai pas les chiffres en tête, mais de toute façon que le marché du jeu vidéo par rapport au marché du cinéma, enfin, la comparaison, c'est, ah oui, juste c'est pour rire. Hein,
c'est énorme.
C'est du style 10-1, quoi.
Mais
c'est,
on sait que souvent, ce sont aussi un public qui est très, 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 très strict et très intransigeant. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec le jeu vidéo. Donc, Super Mario, c'est une des plus grosses recettes pour un dessin animé au cinéma, dans le top 3 avec les deux Reines des Neiges.
Hein, on est tout, à fait, voilà. Tout à fait.
Et alors, d'un point de vue série, on a aussi récemment le Last of Us adapté aussi d'un jeu vidéo chez HBO qui a fait un score absolument incroyable, tant d'un point de vue public que d'un point de vue critique. Parce que, cette série menée par Pedro Pascal et Bella Ramsey a vraiment été une série qui a été acclamée par le public, par les amateurs de jeux vidéo et par la critique cinéma. Donc ça réunissait, il y avait un peu un consensus autour de cette adaptation.
On peut aussi évoquer les gros plantages comme Assassin's Creed.
Les Tomb Raider, toutes ces choses qui ont été des tentatives de faire de l'argent finalement des choses qui en faisaient déjà en prolongeant la diversification à travers le cinéma. Mais ici récemment, on a quand même des réussites assez notables. Et donc Fallout, ça s'inscrit un peu dans cette lignée. C'est un jeu vidéo qui est un énorme succès. Moi, je ne suis pas gamer, donc je ne connais pas, mais je me suis un petit peu renseigné. Il y a quatre jeux différents qui développent l'univers de Fallout, qui est un univers qui est assez...
Oui. C'est ce que je crois. C'est que je pense que les auditeurs fidèles savent que nous ne sommes pas gamers depuis un certain moment.
On est jouette, mais pas gamer. Pas du tout.
Je pense que ce n'est pas un outing extrêmement... Ce n'est pas une révélation fracassante. Mais donc, continuons. Comment est-ce Fallout ?
Alors, ce Fallout, on est exactement dans la même configuration que The Last of Us, à savoir un monde post-apocalyptique.
Ok.
Le créateur du jeu, qui avait longtemps été courtisé pour des adaptations, s'y est toujours refusé parce qu'il voulait que le film ou la série, en l'occurrence c'est ici une série, 8 épisodes, des épisodes de 130 minutes et d'autres de 50 minutes. Donc on est vraiment sur quelque chose de consistant.
Ah oui.
Il se refusait à une adaptation simple du jeu, il voulait que le film porte le jeu plus loin et invente une histoire inspirée par l'univers qui est celui du jeu vidéo. Et c'est ce que lui a proposé le frère, mon cher Hugues, le frère de notre ami, le réalisateur de Oppenheimer.
Ah oui, le frère Nolan.
Nolan, Jonathan Nolan, le frère de Christopher, qui travaille sur le cinéma de Christopher Nolan.
Absolument.
Hein, Jonathan, comme co-scénariste.
Oui, tout à fait.
Ici, il est à la manœuvre de tout. Il écrit, il adapte évidemment, il écrit, il produit et il réalise une partie des épisodes. Donc c'est vraiment un projet qui lui tenait à cœur à tous les postes d'avancement du projet. Donc ici, on a une série qui se déroule en 2296, c'est-à-dire après la fin des jeux vidéo. Donc on est après. Les jeux vidéo, eux, s'arrêtent aux alentours des années de 2100, 2200.
Ah oui, ok.
Ici, on est après. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur trois époques. Il y a une timeline qui est un petit peu... C'est la seule chose qui est un peu compliquée à saisir dès le départ si on ne connaît pas le jeu. Mais très, très vite, le scénario vous remet les choses en perspective et on comprend à peu près dans quel système on évolue. On démarre sur une scène qui est très connoté d'un univers des années 50. On est à un anniversaire où il y a un cow-boy avec son cheval qui vient animer l'anniversaire. On comprend que ce cow-boy est une ancienne star du cinéma un peu passé et qui donc anime des anniversaires pour des enfants où il accepte que les gosses s'asseyent sur le cheval pour faire une photo. Et pendant cet anniversaire barbecue dans un jardin très 50s, on s'aperçoit qu'en fait, il y a au bout du dans la ligne d'horizon du paysage, une espèce d'explosion et puis une déferlante qui arrive, et c'est donc effectivement une explosion nucléaire qui se passe en 2077. Et c'est ce que, dans la série et dans le jeu, on appelle la Grande Guerre. En fait, en deux jours, des explosions atomiques vont complètement raser toute forme de vie sur Terre et va faire un dégât absolument impossible. Et on se retrouve en 2296, soit 200 ans après. Que s'est-il passé ? Il s'est passé qu'il y a eu de la spéculation, puisque la menace nucléaire était déjà très très présente avant cette explosion. Il y a eu de la spéculation par une société privée qui, en fait, a commencé à vendre aux États-Unis des abris aux plus fortunés afin de pouvoir se réfugier en cas de guerre, en cas de catastrophe nucléaire. La catastrophe, elle est arrivée. Donc, ceux qui s'étaient
bien occupés,
qui s'étaient procurés des bunkers auprès de cette société qui s'appelle Vault Tech, se sont réfugiés quelque part dans un univers fermés, où ils sont bien entre eux. Par contre, à la surface, là, c'est un peu le struggle for life, où toute forme de vie telle qu'on la connaissait a disparu. Le 200 ans après, les radiations sont retombées, mais pas complètement, donc il reste encore...
C'est une parabole sur le gap entre les riches, les ultra-riches, les
pauvres. De toute façon, et il y a aussi une sorte de... Il y a une fin, en tout cas, je ne sais pas dans le jeu vidéo qui reste ouvert, mais en tout cas dans la série, il y a une fin qui donne une explication quelque part sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui s'est déroulé. Mais ce qui est formidable, surtout, c'est que ces jeux vidéo, lorsqu'ils sont bien faits, bien pensés, bien conçus, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, c'est assez, assez épatant, c'est que ça crée non seulement une histoire, mais aussi tout un univers, avec des personnages qui ont un passé, une histoire. On comprend pourquoi certains en sont arrivés là. Ils ont un trajet de vie, on revient en arrière. Il y a aussi toute une série d'accessoires, de modes opératoires, de styles de vie qui sont complètement réinventés. Je ne vais pas dire qu'on est dans le Seigneur des Anneaux, mais on est quand même dans un univers
extrêmement
ultra
cohérent.
Riche. Oui, très 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 complet, qui pense à peu près à tout, et y compris des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais qu'on découvre. On se dit, ah ben oui, tiens, finalement... Voilà. Donc cet univers qui est très très riche et très 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 complet, finalement permet d'entrer en immersion dans quelque chose de très très original, de très très cohérent, et avec une histoire qui tient de bout en bout, parce que cette histoire, elle est chaque fois, on se repose sur des faits qu'on peut expliquer par une action du passé.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de tour de passe-passe.
Il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas « Ah, mais tout ceci n'était qu'un rêve ». Et on va suivre en fait trois personnages principaux, une sorte de mercenaire qui vit comme dans un exo-robot, vous voyez, ces espèces d'armures qui sont commandées de l'intérieur par quelqu'un et qui peut à peu près combattre tout et n'importe quoi, y compris des créatures qui auraient été modifiées par les radiations nucléaires de cette fameuse Grande Guerre. On a une fille qui vit de façon très très privilégiée, un peu dans sa bulle et dans un cocon, qui vit dans un abri, mais qui va devoir en sortir pour une quête qui est évidemment le principe même d'un jeu vidéo, à savoir il y a une trajectoire, il y a une quête. Et cette jeune fille est interprétée par Ella Purnell, qu'on a vue dans Miss Peregrine. C'était cette fille qui avait des grosses chaussures, à défaut, si elle les enlevait, elle s'envolait.
Miss Peregrine, adaptation par Tim Burton.
Par Tim Burton.
On figurait évidemment Eva Green, oui.
Et on trouve aussi dans la série un troisième personnage qu'on va suivre, et qui est ce fameux cow-boy qui assiste à cette explosion nucléaire et qui va devenir un des personnages importants du jeu vidéo, à savoir une goule. Donc c'est quelqu'un qui a traversé les radiations et qui continue à vivre et à survivre comme une sorte d'insecte survivant à peu près à tout et à n'importe quoi. Et cette goule est interprétée par Walton Goggins, qui est il est complètement méconnaissable, parce qu'il a un un masque et où il n'a plus de nez parce qu'il était complètement irradié. Et c'est un acteur qu'on a vu pas mal chez Tarantino,
oui,
qui fait aussi partie de la franchise Ant-Man.
Absolument.
Voilà, donc série signée par Jonathan Nolan, à qui on devait déjà aussi la série d'anticipation Westworld.
D'après Michael Crichton.
Voilà, d'après ce film avec Yul Brynner,
oui,
donc, qui avait été...
Donc, oui, c'est un vieux machin, historiquement. Oui,
développé en série.
Donc de la science-fiction intelligente.
Intelligente. C'est très très long, c'est très très dense, c'est touffu, c'est malin. Ouais, c'est extrêmement malin et c'est assez violent. Donc je pense que certains épisodes, le macaron déconseillé aux moins de 18 ans apparaît parce qu'il y a quand même des scènes qui sont sanglantes, violentes. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce monde post-apocalyptique, c'est de voir la cohabitation entre des technologies hyper modernes, hyper sophistiquées et une barbarie moyenâgeuse,
oui,
et c'est c'est du cyberpunk. On assiste un peu à la cohabitation des deux où parfois des choses très très sophistiquées sont écrasées d'un coup de poing et on se rend compte que finalement la force physique l'emporte sur l'intelligence, mais pas toujours. Parfois il y a des retournements de situation et il y a à défaut d'une vraie fin, une vraie conclusion qui ouvre peut-être sur autre chose. C'est en tout cas un des gros, gros succès de Amazon Prime pour l'instant, à tel point que le jeu vidéo qui s'est arrêté à 4 parties, le créateur du jeu a tellement été épaté par... Et c'est un petit peu le monde à l'envers, a tellement été épaté par la série qu'il se dit peut-être que le Fallout 5 pourrait être un jeu adapté de la série, adapté du jeu.
D'accord.
Parce que les personnages que le frère Nolan a créés pour la série sont passionnants, cohérents et collent parfaitement à cette idée de Fallout sans trahir l'esprit du jeu, mais en y apportant des nouveaux éléments qui portent l'histoire plus loin. Voilà, ça s'appelle Fallout et c'est sur Amazon Prime.
Bien. Et ça prend du temps, donc ça tombe bien de le mentionner. Ouais. Maintenant, avant ces vacances de printemps,
avec des épisodes qui font pratiquement deux heures.
Oui. Ça prend le temps.
Qu'est-ce qu'on écoute ? Le groupe Fontaines D.C., dont le chanteur avait livré un album solo, dont on écoutait plusieurs extraits ici il y a quelque temps. En fait, le groupe est déjà tout prêt à revenir avec un album qui s'appelle Romance. Et il sera, cet album, disponible le 23 août, à savoir quelques jours après leur passage au Puckle Pop Festival. Ils annoncent déjà ce retour et ses concerts avec une chanson qui a pour nom Star Busters. C'est le nouveau Fontaines D.C. Fontaines D.C., seront le 16 août au Puckle Pop.
Alors, autre sortie de la semaine prochaine, c'est un film dont on a parlé énormément en Belgique au moment du succès du polar Duel d'Olivier Masset-Depasse. Film absolument formidable, thriller d'après un roman de Barbara Abel. Et Duel, c'était l'histoire de deux voisines qui étaient les meilleures amies du monde, incarnées par Anne Coussens et Verle Batten. Elles ont chacun un petit garçon qui sont eux-mêmes très amis et suite à un accident domestique, un des deux petits garçons meurt précipitamment et évidemment le deuil est terrible et va insidieusement modifier la relation d'amitié entre les deux femmes parce que une des deux femmes a vu le petit garçon mais n'a pas pu empêcher l'accident et donc il y a quelque part un climat de suspicion et d'autoculpabilité qui va totalement envenimer la situation et les relations entre ces deux femmes et leur mari. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé beaucoup de ce film ? Eh bien, parce que Jessica Chastain avait vu le film et en était tombée littéralement amoureuse et voulait produire un remake. Eh bien, ce remake arrive la semaine prochaine sur nos écrans. Il s'appelle Mother's Instinct. Et face à Jessica Chastain, qui joue évidemment une des deux voisines, l'action a été se déroulée dans les années 60 en Belgique. Cette fois-ci, c'est dans les années 60 aux USA, mais ça ne change pas grand-chose. On est dans un quartier résidentiel. Et face à Jessica Chastain, il y a Anne Hathaway. Donc, deux actrices de premier plan qui... visiblement se sont délectés par rapport à des rôles féminins très très bien écrits. Alors initialement ça devait être Olivier Massé-Depasse lui-même qui dirigeait le remake, il a quitté le projet en cours de route pour des raisons non expliquées et ce qui est assez intéressant c'est que derrière la caméra on retrouve Benoît Delhomme qui est un grand directeur de la photo, mais qui n'a jusqu'ici jamais réalisé de film. Mais il a dirigé énormément de films, de la photo de beaucoup de films en France, comme dans certains films anglo-saxons. Il est français. Et Benoît Delhomme, ici, ben, on se dit, mais en fait, quelque part, quand on voit Mother's Instinct, donc ce remake, ben, il disposait d'un excellent plan de travail parce que le remake est incroyablement fidèle à l'original. Et comme c'est un très très bon directeur de la photo pour faire une image rétro et bien mettre en valeur les expressions les plus fines de ces deux excellentes actrices, ben, quelque part, on a, je dis pas qu'il n'a pas fait du bon travail, mais il avait vraiment un guide pour, à partir du moment où on choisit de faire un remake aussi fidèle, ben, je dis pas que c'est plan par plan, mais en tout cas, les principales ressorts dramatiques de la version belge sont respectés dans ce remake. Alors, ceux qui n'avaient pas vu Duel, au pluriel, l'original, eh bien, peuvent avec curiosité aller voir ce remake pour voir deux excellentes actrices à l'œuvre, à savoir Chastain et Hathaway. Ceux qui ont vu Duel, ben, forcément, il n'y a plus aucun effet de surprise parce que
c'est un thriller. Hein.
Donc on voit quelque part la réinterprétation d'un même scénario, mais donc là forcément il n'y a plus aucune surprise. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que visiblement le film est tombé dans l'escarcelle d'Amazon Prime, donc à terme, on ne sait pas dans quel délai, mais finira sur cette plateforme. Mais voilà, donc ceux qui avaient entendu parler de Duel, mais qui ne l'avaient pas vu, peuvent par curiosité aller voir celui-ci et être...
Et c'est devenu en anglais...
Mother's Instinct.
Instinct maternel.
Voilà, Mother's Instinct. Voilà. Et donc, signé par Benoît Delhomme, ça sort ce mercredi.
Vous distribuez quoi, des parpaings, c'était des balles de match,
mais on peut aussi en mettre deux parce que chaque actrice est formidable. Simplement, il n'y a pas d'invention par rapport au film original, mais le film original était un bon film, donc ceci reste aussi quelque part un bon film. Voilà.
Ça aurait pu être un gâchis.
Oui, on en a eu. Rappelez-vous du remake de Diabolique de Clouseau, par exemple, avec Sharon Stone et Isabelle Adjani, c'était une catastrophe.
Eh bien non, voilà. Je ne me rappelle pas.
Voilà.
Merci mon cher Hugues, on se retrouve demain, on salue Laurent Nélissen, et pour se quitter, une sorte de petite Madeleine de Proust ou de bonbon qui avait perdu un peu de goût avec le temps. Il y a pratiquement 30 ans sortait le film Scarface de Brian De Palma.
Exact.
Décembre 1993.
Qui était aussi un remake.
Et il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, hein, c'était fin 1993, sortait la bande originale du film qui était signée Giorgio Moroder. Ah. Et à l'occasion du 30e anniversaire, il y a une BO dépoussiérée qui vient d'arriver. C'est pas forcément la BO la plus connue signée par Moroder, mais à l'époque, il avait... il tenait un peu le haut du pavé. Mmh. Et donc, on avait fait appel à lui, en tout cas, De Palma avait fait appel à lui pour cette BO, avec une chanson phare qui était interprétée par Debbie Harry.
Ah ouais.
Et elle s'appelle toujours Rush Rush. C'est l'occasion de la découvrir pour la réédition du 30e anniversaire du soundtrack de Scarface. C'est signé Giorgio Moroder. À demain.
À demain.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.